aujourd'hui, j'ai donné le titre, donc le serviteur de Yahvé, donc le libérateur, qui est pratiquement, enfin serviteur, libérateur, c'est presque un oxymore. Hein? C'est pas autant qu'un silence assourdissant ou un jeune vieillard ou des choses comme ça, mais serviteur qui libère les autres, c'est pas dans la mentalité des gens. Mais c'est exactement ce que dit ce texte. Et voilà un des problèmes d'interprétation. Ce n'est pas que nous ne savons pas ce que disent les mots. Hein. La traduction, ça va. Hein. On sait exactement ce que veulent dire les mots. Mais les mots ensemble pour compléter des phrases et mettre ensemble un enseignement, là, c'est un peu plus difficile parce que il y a beaucoup derrière le texte. Hein? Il y a beaucoup derrière le texte. Et avec ceci, il faut quand même une théologie, une vision du monde pour interpréter. Et ça, c'est pourquoi il y a des points de vue si divergents. Notamment, il y a le côté, judaïque, hein, qui a une interprétation très israélite. Il y a aussi ceux qui ne croient pas dans un message évangélique. Et là aussi, on a un autre message. Pour nous, j'ai adopté quand même, ça va surprendre personne, hein, l'interprétation chrétienne sur la base que je crois qu'il n'y avait qu'un seul auteur, donc Ésaïe. Et oui, ça joue aussi dans les interprétations. Et deuxièmement, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et puisqu'il est la parole de Dieu, en fait, c'est lui qui est derrière tout ce qui est dit et c'est lui le centre de tout. Donc, je crois que lorsque nous parlons d'un serviteur qui est aussi libérateur, là, nous parlons de Jésus-Christ. Et on va voir ça en deux temps. D'abord, sa vocation, comment il a été appelé. Et deuxièmement, cette délivrance qu'il va effectuer. D'accord? Donc, on va commencer et on va d'abord parler de la vocation du serviteur. Alors, l'appel du serviteur a été avant sa naissance. Là, c'est assez facile dans le passage. Et c'est d'ailleurs un thème récurrent dans l'Écriture. Que ce soit, par exemple, Moïse, hein, qui était choisi. Là, on a même par ses parents et après, il y avait aussi Jérémie qui était choisi dans le ventre de sa mère. Nous, les chrétiens aussi, nous sommes élus aussi en Christ. Nous avons été prédestinés par ceux qui l'ont connu d'avance. Hein. C'est un thème qui revient dans l'Écriture. Et puisque nous parlons de Jésus-Christ, qui est donc la tête de l'Église, qui est au-dessus de tout, bien sûr, c'est encore plus vrai que jamais. Par exemple, en Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons: il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Jésus-Christ est bien sûr en existence, bien avant même la création du monde, puisque il est même présent dans la création et ça a été créé par lui. Il est donc là avant toute chose. Mais ce qui rend ce passage un peu difficile, c'est que on parle de la même personne en trois différents temps. Par exemple, on commence avec le pronom « je ». Verset 1. D'abord, il parle à qui? Il parle aux îles, donc au monde. « Île, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. » Donc, il parle au monde entier. Et puis, il dit, l'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Donc, ça, c'est un registre. Mais, regardez verset 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui j'aurai ma parure. Mais ce n'est pas tout. Verset 6 aussi. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus et pour les restes d'Israël. J'établis pour être donc la lumière des nations pour mon salut soit manifesté aux extrémités de la terre. Et donc, voilà juste une des raisons pourquoi les choses sont un peu confuses. Pourtant, nous parlons de la même personne qui a fait toutes ces choses. Et ça change tout. Parce que la seule personne capable de, à la fois, être appelée avant sa naissance, être le serviteur, et aussi être la lumière aux nations, et la représentante du salut, c'est bien sûr Jésus-Christ. Mais on pourrait dire, et là, où effectivement, le peuple juif dirait, « Ouais, mais il y a un petit mot là que tu as oublié, tu es mon serviteur Israël. » Mais est-ce qu'Israël peut sauver Israël? Est-ce qu'Israël peut ramener toutes les tribus d'Israël à Dieu? Non, pas plus que nous. Il nous faut d'être né de nouveau afin de pouvoir, avec efficacité, propager l'Évangile ou partager l'Évangile avec une certaine puissance du Saint-Esprit. De la même manière, il faut donc que Dieu fasse quelque chose qui est au-delà des capacités humaines. Donc, c'est Jésus qui peut. Mais pourquoi est-ce qu'il dit Israël, donc? Parce que Jésus est le Messie d'Israël. Il est le chef de ce peuple. Et tout comme n'importe quel chef des nations représente la nation, par exemple Emmanuel Macron, quand il signe un traité pour la France, c'est toute la France qui signe avec lui, n'est-ce pas? De la même manière, Jésus représente la nation parce qu'il a accompli ce que Israël ne pouvait pas accomplir. Ce n'est pas qu'il remplace la nation, il accomplit tout ce qui a été dit pour eux. Et là, on peut aller très loin. Par exemple, Israël était infidèle dans le désert. Jésus était fidèle dans les déserts lorsqu'il a repoussé Satan. Israël a été idolâtre. Jésus nous a enseigné qui est le véritable Dieu. Israël a brisé la loi, Jésus a enseigné la loi. Enfin, et ça continue tout ce que Israël ne pouvait pas faire, parce qu'Israël, c'est pas c'est comme nous, hein. On peut se mettre aussi à la place. Ce que eux, ils ne pouvaient pas faire, Jésus a accompli. Donc, pour nous aussi, il représente la nation. Vous voyez? Donc, avec ça en tête, la seule personne capable de remplir toutes les cases, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Tout comme nous voyons aussi en Somme 2:7, « Je publierai le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, on ne sait pas comment les premiers lecteurs auraient compris ce passage. Mais c'est évident que les auteurs du Nouveau Testament ont bien compris que c'est Christ. Jésus en tant que roi, Messie, est donc le chef, la tête de l'Église. Il est celui qui accomplit ce que l'homme ne peut pas. Il est celui qui initie, qui fait et qui accomplit tout ce que Dieu a projeté depuis tout temps. Comme il dit en 1 Pierre, verset 1:20, il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire le plan de Dieu pour le salut des âmes était bien avant. Et toutes les étapes que nous passons par Noé, ou Abraham, Moïse, David, tous ces moments dans l'histoire, c'est une petite partie de toute cette œuvre qu'il fait, qu'il continue de faire pour le salut des âmes. Alors, une autre petite difficulté du texte, c'est le fait que, en verset 1, verset 2, par contre, il a parlé de sa bouche comme une épée qui sort de sa bouche. Et j'imagine que déjà, donc vous les biblicistes, hein, vous avez déjà en tête quelques idées pourquoi ça ne peut être que Jésus. Première chose, deux choses à dire, c'est Hébreux 4, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, les jointures, les molles, et les juge des sentiments et des pensées du cœur. Dans ce passage, chapitre 4, vous connaissez le contexte? Le contexte n'est pas comment est-ce que la parole de Dieu est si merveilleuse pour notre vie. Le contexte, il faut lire plus tard, c'est comment Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qu'il nous faut, qui enlève notre péché et qui est celui qui a été choisi depuis toujours. Ça, c'est le contexte. Et puis, il introduit cette idée que la parole de Dieu est comme une épée, si puissante, si parfaite pour nous corriger et nous instruire. Et puis, deuxièmement, on a ça aussi en Éphésiens 6. Les armes de l'esprit, vous connaissez ça. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est vrai que c'est une véritable arme spirituelle. Quand le diable nous attaque, effectivement, prendre cette parole, la parole de Dieu, pour contrecarrer ses attaques lorsqu'il veut semer la confusion, la doute et les autres choses, c'est puissant. Mais d'où vient cette idée? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il était dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait lorsque le diable lui a lancé tentation après tentation? Il contrecarrait ses tentations avec la parole de Dieu. Jésus, donc, qui est le maître de tout et en tous. Alors, on peut, bien sûr, aller encore plus loin. Parce que sachant que Jésus est venu détruire les œuvres du diable, là, on n'est pas étonné de voir deux autres versets où nous voyons une épée sortant de la bouche de Jésus-Christ. Par exemple, Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite trois étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguillée à deux tranchants. Ou bien, à la fin de la Bible, 19, verset 15. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Alors, ce n'est pas un hasard que nous voyons ceci. Et pourquoi? Nous avons vu, quand Jésus parle, il avait une puissance inouïe. Justement, pour revenir en Ésaïe, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguillée. Il m'a dissimulé dans son carquois. Là, on a une belle image de Jésus en tant que serviteur. Comment il a été utilisé en tant que serviteur? Il était appelé pour enseigner, n'est-ce pas? Par sa puissante parole, aussi, il a guéri les gens. Par sa parole, il a chassé les démons. Par sa parole, il a pardonné. Il a restauré. Il est la parole de Dieu. Alors, Dieu appelle serviteur pour la mission, justement, de sauver les âmes. Sa mission était, pendant sa vie, il a dit, de ramener les brebis d'Israël. Ça, c'est pourquoi il n'a pas passé autant de temps avec les Samaritains et les païens. Mais nous savons aussi que dès sa résurrection, avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Allez! Va dans toutes les nations en enseignant, en baptisant. Il avait donc un but, un objectif qui visait finalement le monde. Et en plus, et ça fait aussi partie de son appel, il avait de la résistance. Ça n'était pas toujours facile, nous le savons. Et bien, Ésaïe fait l'écho. Verset 4. Mais moi je dis, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide et la vanité que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de Dieu. Donc, il était effectivement fatigué par ce qu'il a fait. Nous voyons dans son humanité la fatigue, mais aussi la résistance continuelle. C'est aussi vu en verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie a été méprisée. Là, on va reprendre ça au chapitre 53. Et qui a fait horreur à la nation? Quelle nation? À Israël, bien sûr. À l'esclave des dominateurs, les rois le verront et se lèveront dès les princes et se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël. Et donc, ce serviteur méprisé, qui continue dans le droit, en fait, par sa vie, par son ministère, par son enseignement, par tout ce qu'il a dit dans tous les évangiles, nous comprenons qu'il est le serviteur appelé avant sa naissance. Il est le serviteur de l'Éternel. Alors, quel est donc sa mission? Sa mission est de délivrer son peuple. D'abord, il a changé l'ordre des choses. Il a établi, nous savons, cette nouvelle alliance que nous venons de célébrer lors de la Sainte Cène. Il libère les captifs. C'était toujours pendant le temps de son ministère, cette libération des captifs. Selon l'ordre du monde, ceux qui étaient les plus méprisés, ceux qui étaient vraiment tenus à l'écart, marginalisés, que personne ne voulait voir, Jésus les amenait au centre, les libérait et les donnait à nouveau une vie, une dignité, un espoir. Et c'est donc de toute son autorité qu'il leur donne les captifs de sortir, ceux qui se cachent dans les ténèbres aussi, pour venir à la lumière. Pour dire aux captifs, verset 9, il dit « Sortez !» et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez ! Ils pourront paître sur les chemins et trouveront des pâturages sur les coteaux. C'est lui qui a fait entrer cette nouvelle ordre de grâce aujourd'hui. La libération. Et puis, il interviendra, et il est intervenu, au moment où il fallait, de la manière qu'il le fallait. En fait, verset 8, un verset très intéressant, développe ça, mais je vais le citer pas en Ésaïe, mais comme il est cité en 2 Corinthiens. Le contexte est très intéressant. Verset 20 de 2 Corinthiens 5. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et puisque nous travaillons ensemble, donc nous avec le Christ, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il a dit, et voilà notre verset en Ésaïe, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant est le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La délivrance continue. La preuve, vous êtes là. Un jour, un moment dans votre vie, vous avez été aussi touché par sa grâce, libéré, et vous avez répondu à son appel. Et cela nous fait comprendre que nous aussi, nous faisons part de son plan éternel. Et donc nous, comme des ambassadeurs pour Christ, nous sommes lancés aussi dans ce grand récolte, si vous voulez, en demandant aux gens d'être réconciliés à Dieu. Car aujourd'hui est le jour du salut. Il est déjà venu et ça continue et ça continuera. Aujourd'hui est le jour du salut et au moment voulu, Christ est venu. Pour Israël de l'époque, ils pensaient certainement à leur libération des Babyloniennes. Mais comme Dieu dit, c'est peu que tu sois pour mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être à la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu voit grand, beaucoup plus grand, je pense, de ce que nous pensons. Et ça, c'est pourquoi vous avez vu, premier verset, comment il appelle le monde à écouter. Écoutez-il, écoutez tout le monde. Regardez comment il termine cette partie. Cieux acclamés, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en acclamation, car l'Éternel console son peuple et a compassion des malheureux. Voilà un sujet de joie pour le monde entier. Jésus-Christ est venu sauver. Et son peuple vivra de sa provision. Certains commentateurs, et je vois parfaitement, ils voient certaines parties de ce passage comme des choses qui appartiennent à un règne de 1000 ans avec Christ. Par exemple, ça, je transformerai toutes mes montagnes en chemin. Mes routes seront rechaussées, des choses qui ne sont jamais produites encore, qu'un règne de 1000 ans donnerait justement à cela, un temps de consolation pour le peuple d'Israël. C'est tout à fait possible. Je sais que d'autres personnes voient plutôt un accomplissement spirituel en Christ. Je ne vois pas pourquoi les deux doivent être opposés. Je pense que les deux sont parfaitement possibles. Dans tous les cas, le peuple de Dieu vit dans la provision de son bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a aussi Jésus qui dit « Je suis le bon berger qui a donné ma vie pour mes brebis. » Justement, on venait de chanter, bon, peut-être pas... au mieux qu'on aurait pu chanter, parce que c'était la première fois, mais cette chanson, J'irai. Cette chanson, en fait, est très intéressante. Ça va parfaitement avec le message. Et la raison, c'est parce que ce mot J'irai, donc, ça vient de la Bible, hein, ça vient de Genèse, lorsque Dieu a demandé à Abraham de ramener donc son fils, son seul fils, Isaac, pour le sacrifier. Isaac, il a dit, « Mais père, on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice ?» Et Abraham a dit, « Dieu se pourvoit lui-même un sacrifice. » Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas que Abraham a tué son fils, non. Non, Dieu a pourvu donc un bouc là à côté. Dieu s'est pourvu. Nous savons aussi que c'est sur cette même montagne, le mont Moria, où est construit le temple de Dieu. Et nous savons que, donc, c'est là où, année après année, les sacrificateurs ont offri des sacrifices pour le péché du peuple. Mais ce n'est pas tout. Nous savons aussi que, juste en dehors de la ville, Jésus-Christ fut crucifié pour nos péchés. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ, au premier sens, est Jéhovah Jireh. Il est la provision de Dieu. Et quand nous chantons cette chanson, voilà à quoi, au premier sens, que nous chantons. Ça, c'est pourquoi, sans doute, que la chanson commence avec cette phrase, « Je sais que je ne serai pas aimé plus que je le suis maintenant. » Parce qu'il nous a montré son amour pour nous, à la croix. Et il n'y a rien qu'on puisse ajouter pour aller plus loin. Donc, en conclusion, Jésus est le serviteur de Yahvé, le libérateur de son peuple, par sa croix, et c'est lui donc qui invite les captifs à sortir, non par leur propre force, mais par l'œuvre qu'il fait en eux. Jésus est éternel, parfaitement homme, mais Dieu de vrai Dieu. Il est parfaitement homme et sauveur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? D'abord, et peut-être avant tout, puisque nous sommes dans la famille de Dieu, quel est votre besoin? Quelle est votre préoccupation, votre souci, votre secret? Quelle est cette chose au fond de vous-même? Il est le serviteur de l'Éternel, il est le libérateur. Il est digne de toute confiance. Venez à lui et confiez-vous et déchargez sur lui tous vos soucis, car il se soucie de vous.